Deuxième partie de la vie de Marianne. Avertissement. La première partie de la vie de Marianne a paru faire plaisir à bien des gens. Ils en ont surtout aimé les réflexions qui y sont semées. Mais d'autres lecteurs ont dit qu'il y en avait trop. Et c'est à ces derniers à qui ce petit avertissement s'adresse. Si on leur donnait un livre intitulé « Réflexions sur l'homme », ne le lirait-il pas volontiers, si les réflexions en étaient bonnes? Nous en avons même beaucoup de ces livres, et dont quelques-uns sont fort estimés. Et pourquoi donc les réflexions leur déplaisent-elles ici, en cas qu'elles n'y aient contre elles que d'être des réflexions? C'est, diront-ils, que dans des aventures comme celle-ci, elles ne sont pas à leur place. Il est question de nous y amuser, non pas de nous y faire penser. Eh bien, cela, voici ce qu'on leur répond. Si vous regardez la vie de Marianne comme un roman, vous avez raison. Votre critique est juste. Il y a trop de réflexions et ce n'est pas la forme ordinaire des romans ou des histoires faites simplement pour divertir. Mais Marianne n'a point songé à faire un roman non plus. Son ami lui demande l'histoire de sa vie et elle l'écrit à sa manière. Marianne n'a aucune forme d'ouvrage présente à l'esprit. Ce n'est point un auteur, c'est une femme qui pense, qui a passé par différents états, qui a beaucoup vu, enfin dont la vie est un tissu d'événements qui lui ont donné une certaine connaissance du cœur et du caractère des hommes, et qui, en comptant ses aventures, s'imagine être avec son ami, lui parler, l'entretenir, lui répondre. Et dans cet esprit-là, mêle indistinctement les faits qu'elle raconte aux réflexions qui lui viennent à propos de ces faits. Voilà sur quel ton elle prend Marianne. Ce n'est, si vous le voulez, ni celui du roman, ni celui de l'histoire, mais c'est le sien. Ne lui en demandez pas d'autre. Figurez-vous qu'elle n'écrit point, mais qu'elle parle, peut-être qu'en vous mettant à ce point de vue-là, sa façon de compter ne vous sera pas si désagréable. Il est pourtant vrai que dans la suite elle réfléchit moins et compte davantage, mais pourtant réfléchit toujours. Et comme elle va changer d'état, ses récits vont devenir aussi plus curieux et ses réflexions plus applicables à ce qui se passe dans le grand monde. Au reste, bien des lecteurs pourront ne pas aimer la querelle du cocher avec Madame Dutour. Il y a des gens qui croient au-dessous d'eux de jeter un regard sur ce que l'opinion a traité d'ignoble. Mais ceux qui sont un peu plus philosophes, qui ont un peu moins dupes des distinctions que l'orgueil a mis dans les choses de ce monde, ces gens-là ne seront pas fâchés de voir ce que c'est que l'homme dans un cocher et ce que c'est que la femme dans une petite marchande. Seconde partie. Dis-moi, ma chère amie, ne serait-ce point un peu par compliment que vous paraissez si curieuse de voir la suite de mon histoire? Oh, je pourrais le soupçonner, car jusqu'ici tout ce que je vous ai rapporté n'est qu'un tissu d'aventures bien simples, bien communes, d'aventures dont le caractère paraîtrait bas et trivial à beaucoup de lecteurs si je les faisais imprimer. Bon, je ne suis encore qu'une petite lingère, et cela les dégoûterait. Il y a des gens dont la vanité se mêle de tout ce qu'ils font, même de leur lecture. Donnez-leur l'histoire du cœur humain dans les grandes conditions, ça devient là pour eux un objet important. Mais ne leur parlez pas des états médiocres. Ils ne veulent agir que, voire agir que des seigneurs, des princes, des rois, ou du moins des personnes qui ont fait une grande figure. Il n'y a que cela qui existe pour la noblesse de leur goût. Laissez là le reste des hommes, qu'ils vivent, mais qu'il n'en soit pas question. Ils vous diraient volontiers que la nature aurait bien pu se passer de les faire naître, et que les bourgeois la déshonorent. Or, jugez, madame, du dédain que de pareils lecteurs auraient eu pour moi. Au reste, ne confondez au point, le portrait que je fais de ce genre-là ne vous regarde pas, ce n'est pas vous qui serez la dupe de mon état. Mais peut-être que j'écris mal. Le commencement de ma vie contient peu d'événements, et tout cela aurait bien pu vous ennuyer. Vous me dites que non, vous me pressez de continuer. Je vous en rends grâce et je continue. Laissez-moi faire. Moi, je ne serai pas toujours chez Madame Dufour. Je vous ai dit que j'allais à l'église, à l'entrée de laquelle je trouvais de la foule, mais je n'y restais pas. Mon habit neuf et ma figure y auraient trop perdu, et je tâchais, en me glissant doucement, de gagner le haut de l'église où j'apercevais de beau monde qui était à son aise. C'étaient des femmes extrêmement parées, les unes assez laides, qui s'en doutaient, car elles tâchaient d'avoir si bon air qu'on ne s'aperçut pas, et d'autres qui ne s'en doutaient point du tout, et qui, de la meilleure foi et meilleure foi du monde, prenaient leur coquetterie pour un joli visage. J'avais une fort aimable, et celle-là ne se donnait pas la peine d'être coquette. Elle était d'au-dessus de cela pour plaire. Elle s'en fiait négligemment à ses grâces, et c'était ce qui la distinguait des autres, de qui elle semblait dire « Je suis naturellement tout ce que ces femmes-là voudraient être ». Il y avait aussi nombre de jeunes cavaliers bien faits, gens de robe et d'épée, dont la contenance témoignait qu'ils étaient bien contents d'eux, et qui prenaient sur le dos de leur chaise de ces postures aisées et galantes qui marquent qu'on est au fait des bons airs du monde. Je les voyais tantôt se baisser, s'appuyer, se redresser, puis sourire, puis saluer à droite et à gauche, moins par politesse ou par devoir que pour varier les airs de bonne mine et d'importance et se montrer sous différents aspects. Et moi, je devinais la pensée de toutes ces personnes-là sans aucun effort. Mon instinct ne voyait rien là qui ne fût de sa connaissance, mais n'en était pas plus délié pour cela, car il ne faut pas s'y méprendre, ni estimer ma pénétration plus qu'elle ne vaut. Nous avons deux sortes d'esprits, nous autres femmes. Nous avons d'abord le nôtre, qui est celui que nous recevons dans la nature, celui qui nous sert à raisonner, suivant le degré qu'il a, et qui devient ce qu'il peut, et qui ne sait rien qu'avec le temps. Et puis nous avons encore un autre, qui est à part d'une autre, et qui peut se trouver dans les femmes les plus sottes. C'est l'esprit que la vanité de plaire nous donne, et qu'on appelle, autrement dit, la coquetterie. Or, celui-là, pour être instruit, n'attend pas le nombre des années. Il est fin, dès qu'il est venu, dans les choses de son ressort, il a toujours la théorie de ce qu'il voit mettre en pratique. C'est un enfant de l'orgueil qui naît tout élevé, qui manque d'abord d'audace, mais qui n'en pense pas moins. Je crois qu'on peut lui enseigner des grâces et de l'aisance. Mais il n'apprend que la forme et jamais le fond. Voilà mon avis. Et c'est avec cet esprit-là que j'expliquais si bien les façons de ces femmes. C'est encore lui qui me faisait entendre les hommes. Car avec une extrême envie d'être de leur goût, on a la clé de tout ce qu'ils font pour être d'une autre. Et il n'y aura jamais d'autre mérite à tout cela que d'être vaine et coquette. Et je pouvais me passer de cette petite parenthèse-là pour vous le prouver, car vous le savez aussi bien que moi, mais je me suis avisé trop tard de penser que vous le savez. Alors je ne vois mes fautes que lorsque je les ai faites. C'est le moyen de les voir sûrement, mais non pas à votre profit, et au mien, n'est-il pas vrai? Bon, retournons à l'église. La place que j'avais prise me mettait au milieu du monde dont je vous parle. Quelle fête! C'était la première fois que j'allais jouir un peu du mérite de ma petite figure. J'étais tout ému de plaisir de penser à ce qui allait en arriver. J'en perdais presque haleine, car j'étais sûr du succès, et ma vanité voyait venir d'avance les regards qu'on allait jeter sur moi. Oh, ils ne se firent pas longtemps attendre. À peine étais-je placé, que je fixais les yeux de tous les hommes. Je m'emparais de toute leur attention. Mais ce n'était encore là que la moitié de mes honneurs, et les femmes firent le reste. Elles s'aperçurent qu'il n'était plus question d'elles, qu'on ne les regardait plus, et que je ne me laissais pas incurieux, et que la désertion était générale. On ne saurait s'imaginer ce que c'est que cette aventure-là pour des femmes, ni combien leur amour-propre en est déconcerté, car il n'y a pas moyen qu'ils s'y trompent, ni qu'ils chicanent sur l'évidence d'un pareil affront. Ce sont de ces cas désespérés qui le poussent à bout et qui résistent à toutes ces tournures. Avant que j'arrivasse, en un mot, ces femmes faisaient quelques figures. Elles voulaient plaire et ne perdaient pas leur peine. Enfin, chacune d'elles avait ses partisans, du moins la fortune était-elle assez égale, et encore la vanité vit-elle quand les choses se passent ainsi. Mais j'arrive, on me voit, et tous ces visages ne sont plus rien, il n'en reste pas la mémoire d'un seul. Et d'où leur vient cette catastrophe? De la présence d'une petite fille qu'on avait à peine aperçue, qu'on avait pourtant vue se placer, qu'on aurait même risqué de trouver très jolie, si on ne s'en était pas défendu, enfin, qui aurait bien pu se passer de venir là, et que dans le fond, on avait un peu craint, mais le plus imperceptiblement qu'on l'avait pu. C'est encore leur pensée que j'explique et je soutiens que je les rends comme elles étaient. J'en eus pour garant certains coups d'œil que je leur avais vus jeter sur moi quand je m'avançais, et je compris fort bien tout ce qu'il y avait dans ce coup d'œil-là. On avait voulu le rendre distrait, mais c'était une distraction faite exprès, car il y était resté, malgré qu'on en eût, un air d'inquiétude et de dédain qui était un aveu bien franc de ce que je valais. Cela me parut comme une vérité qui échappe et qu'on veut corriger par un mensonge. Quoi qu'il en soit, cette petite figure dont on avait refusé de tenir compte, et devant qui toutes les autres n'étaient plus rien, il fallut en venir à voir ce que c'était pourtant et retourner sur ses pas pour l'examiner, puisqu'il plaisait aux caprices des hommes de la distinguer et d'en faire quelque chose. Alors voilà donc mes coquettes qui me regardent à leur tour, et ma physionomie n'était pas faite pour les rassurer. Il n'y avait rien de si ingrat que l'espérance d'en pouvoir médire, et je n'avais en vérité que des grâces au service de leur colère. Oh, vous m'avouerez que ce n'était pas là l'article de ma gloire le moins intéressant. Oui, vous me direz que dans leur dépit, il était difficile qu'elles me trouvassent aussi jolie que je l'étais, soit. Mais je suis persuadé que le fond du cœur fut pour moi sans compter que le dépit même donne de bons yeux. Fiez-vous aux personnes jalouses du soin de vous connaître. Vous ne perdrez rien avec elles, la nécessité de bien voir est attachée à leur misérable passion, et elles vous trouvent toutes les qualités que vous avez en vous cherchant tous les défauts que vous n'avez pas. Voilà ce qu'elles essuient. Mes rivales ne me regardèrent pas longtemps, leur examen fut court. Il n'était pas amusant pour elles, et l'on finit vite avec ce qui humilie. À l'égard des hommes, ils me demeurèrent constamment attachés, et j'en eus une reconnaissance qui ne resta pas oisive. De temps en temps, pour les tenir en haleine, je les régalais d'une petite découverte sur mes charmes. Je leur en apprenais quelque chose de nouveau, sans me mettre pourtant en grande dépense. Par exemple, il y avait dans cette église des tableaux qui étaient à une certaine hauteur. Eh bien, j'y portais ma vue, sous prétexte de les regarder, parce que cette industrie-là me faisait le plus bel œil du monde. Ensuite, c'était ma coiffe à qui j'avais recours. Elle allait à merveille, mais je voulais bien qu'elle allât mal, en faveur d'une main nue qui se montrait en y retouchant, et qui amenait nécessairement avec elle un bras rond, qu'on voyait pour le moins à demi dans l'attitude où je le tenais alors. Oui, les petites choses que je vous dis là, au reste, ne sont petites que dans le récit, car à les rapporter, ce n'est rien. Mais demandez-en la valeur aux hommes. Ce qui est de vrai, c'est que souvent dans de pareilles occasions, avec la plus jolie physionomie du monde, vous n'êtes encore qu'aimable, vous ne faites que plaire. Mais ajoutez-y seulement une main de plus, comme je viens de le dire, On ne vous résiste plus. Vous êtes charmante. Combien ai-je vu de cœurs hésitant de se rendre de beaux yeux et qui seraient restés à moitié chemin sans le secours dont je parle? Qu'une femme soit un peu laide, il n'y a pas grand malheur si elle a la main belle. Il y a une infinité d'hommes plus touchés de cette beauté-là que d'un visage aimable. Et la raison de cela, vous dirai-je? Oui, je crois l'avoir senti. C'est que ce n'est point une nudité qu'un visage, quelque aimable qu'il soit. Nos yeux ne l'entendent pas ainsi. Mais une belle main commence à en devenir une. Et pour fixer de certaines gens, il est bien aussi sûr de les tenter que de leur plaire. Et le goût de ces gens-là, comme vous le voyez, n'est pas le plus honnête, mais c'est pourtant en général le goût le mieux servi de la part des femmes, celui à qui leur coquetterie fait le plus d'avance. Oh, mais m'écarterai-je toujours? Je crois que oui, je ne saurais m'en empêcher. Les idées me gagnent, je suis femme et je compte mon histoire. Pesez ce que je vous dis là, et vous verrez qu'en vérité, je n'use presque pas des privilèges que cela me donne. Où en étais-je? Ah, à ma coiffe, que je raccommodais quelquefois dans l'intention que j'ai dite. Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguais moi-même et sur qui mes yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. J'aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j'y trouvais. J'étais coquette pour les autres et je ne l'étais pas pour lui. J'oubliais à lui plaire et ne songeais qu'à le regarder. Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là, et peut-être que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. Ce jeune homme, à son tour, m'examinait d'une façon toute différente de celle des autres. Elle était plus modeste et pourtant plus attentive. Il y avait quelque chose de plus sérieux qui se passait entre lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement à mes charmes. Il me semblait que celui-ci les sentait, du moins je le soupçonnais quelquefois, mais si confusément que je n'aurais pas pu dire ce que je pensais de lui, non plus que ce que je pensais de moi. Tout ce que je sais, c'est que ses regards m'embrassaient, que j'hésitais de le lui rendre et que je le lui rendais toujours, que je ne voulais pas qu'il me vît y répondre et que je n'étais pas fâché qu'il m'eût vu. Enfin, on sortit de l'église, et je me souviens que j'en sortis lentement, que je retardais mes pas, que je regrettais la place que je quittais, et que je m'en allais avec un cœur à qui il manquait quelque chose, et qui ne savait pas ce que c'était. Je dis qu'il ne le savait pas. C'est peut-être trop dire. Car en m'en allant, je retournais souvent la tête pour revoir encore le jeune homme que je laissais derrière moi, mais je ne croyais pas me retourner pour lui. De son côté, il parlait de des personnes qui l'arrêtaient, et mes yeux rencontraient toujours les siens. La foule, à la fin, m'enveloppa et m'entraîna avec elle. Je me trouvais dans la rue et je pris tristement le chemin de la maison. Je ne pensais plus avant l'ajustement en me retournant. Je négligeais ma figure et je ne me souciais plus de la faire valoir. J'étais si rêveuse que je n'entendis pas le bruit d'un carrosse qui venait derrière moi et qui allait me renverser, dont le cocher s'enrouait à me crier « Gare !» Son dernier cri me tira de ma rêverie, mais le danger où je me vis m'étourdit si fort que je tombais en voulant fuir et me blessais le pied en tombant. Les chevaux n'avaient plus qu'un pas à faire pour marcher sur moi. Cela alarma tout le monde, on se mit à crier. Mais celui qui cria le plus fut le maître de cet équipage, qui en sortit aussitôt et qui vint à moi. J'étais encore à terre, d'où, malgré mes efforts, je n'avais pu me relever. On me releva pourtant, ou plutôt on m'enleva, car on vit bien qu'il m'était impossible de me soutenir. Mais jugez de mon étonnement, quand parmi ceux qui s'empressaient de me secourir, je reconnus le jeune homme que j'avais laissé à l'église. C'était à lui à qui appartenait le carrosse. Sa maison n'était qu'à deux pas plus loin, et ce fut où il voulut qu'on me transportât. Je ne vous dis point avec quel air d'inquiétude il s'y prit, ni combien il parut touché de mon accident. À travers le chagrin qu'il en marqua, je démêlai pourtant que le sort ne l'avait pas tant désobligé en m'arrêtant. « Prenez bien garde, mademoiselle, disait-il à ceux qui me tenaient, portez-la doucement, ne vous pressez point, car dans ce moment ce ne fut point à moi qu'il parla. Il me sembla qu'il s'en abstenait à cause de mon état et des circonstances et qu'il ne se permettait d'être tendre que dans ses soins. De mon côté, je parlais aux autres et je ne lui dis rien non plus. Je n'osais même le regarder. Ce qu'il faisait, que j'en mourais d'envie, aussi le regardais-je, toujours en osant. Et je ne sais ce que mes yeux lui dirent, mais les siens me firent une réponse si tendre qu'il fallait que les miens l'eussent mérité. Cela me fit rougir et me remua le cœur à un point qu'à peine m'aperçus-je de ce que je devenais. Je n'ai de ma vie été si agité. Moi, je ne saurais vous définir ce que je sentais. C'était un mélange de troubles, de plaisir et de peur. Oui, de peur. Car une fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela la mène. Ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possède. Et la nouveauté de cet état l'alarme. Il est vrai qu'elle y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir fait comme un danger. Sa pudeur même en est effrayée. Il y a là quelque chose qui la menace, qui l'étourdit, et qui prend déjà sur elle. On se demanderait volontiers dans ces instants-là, que vais-je devenir? Car en vérité, l'amour ne nous trompe point. Dès qu'il se montre, il nous dit ce qu'il est, et de quoi il sera question. L'âme avec lui, sans la présence d'un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas, et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur. Voilà ce qui m'a semblé de l'état où j'étais, et je pense aussi que c'est l'histoire de toutes les jeunes personnes de mon âge, en pareil cas. Enfin, on me porta chez Valeville, c'était le nom du jeune homme en question, qui fit ouvrir une salle où l'on me mit sur un lit de repos. J'avais besoin de secours, je sentais beaucoup de douleur à mon pied, et Valeville envoya sur le champ chercher un chirurgien qui ne tarda pas à venir. Oh, je pense quelques petites excuses que je lui fis dans l'intervalle sur l'embarras que je lui causais, excuses communes que tout le monde sait faire et auxquelles il répondit de la manière ordinaire. Ce qu'il y eut pourtant de particulier entre nous deux, c'est que je lui parlais de l'air d'une personne qui sent qu'il y a bien autre chose sur le tapis que des excuses et qui le répondit d'un ton qui me préparait à avoir entamé la matière. Nos regards même l'entamaient déjà. Il n'en jetait pas un sur moi qui ne signifia « je vous aime ». Et moi, je ne savais que faire des miens, parce qu'il m'en aurait dit autant. Nous en étions là, lui et moi, à ce muet entretien de nos cœurs, quand nous vîmes entrer le chirurgien, qui, sur le récit que lui fit Valeville de mon accident, débuta par dire qu'il fallait voir mon pied. À cette proposition, je rougis d'abord par un sentiment de pudeur, et puis, en rougissant pourtant, je songeais que j'avais le plus joli petit pied du monde. Que Valeville allait le voir, et que ce ne serait point ma faute, puisque la nécessité voulait que je le montrasse devant lui. Ce qui était une bonne fortune pour moi, bonne fortune honnête et faite à souhait, car on croyait qu'elle me faisait de la peine. On tâchait de m'y résoudre, et j'allais en avoir le profit immodeste, en conservant tout le mérite de la modestie, puisqu'il me venait d'une aventure dont j'étais innocente. C'était ma chute qui avait tort. Combien dans le monde y a-t-il d'honnêtes gens qui me ressemblent, et qui, pour pouvoir garder une chose qu'ils aiment, ne fondent pas mieux leur droit d'en jouir que je faisais le mien dans cette occasion-là. On croit souvent avoir la conscience délicate, non pas à cause des sacrifices qu'on lui fait, mais à cause de la peine qu'on prend avec elle pour s'exenter de lui en faire. Ce que je dis là passe surtout beaucoup de dévots, qui voudraient bien gagner le ciel sans rien perdre la terre, et qui croient avoir de la piété, moyennant les cérémonies pieuses qu'ils font toujours avec eux-mêmes et dont ils bercent leur conscience. Mais n'admirez-vous pas, au reste, cette morale que mon pied amène ? Bon, je fis quelques difficultés de le montrer, je ne voulais ôter que le soulier, mais c'était pas assez. Il faut absolument que je voie le mal, disait le chirurgien, qui allait tout uniment. Je ne saurais rien dire sans cela. Et là-dessus, une femme de charge que Valville avait chez lui fut sur le champ appelée pour me déchausser, ce qu'elle fit pendant que Valville et le chirurgien se retirèrent un peu à quartier. Quand mon pied fut en état, voilà le chirurgien qui l'examine et qui le tâte. Le bonhomme, pour mieux juger du mal, se baissait beaucoup parce qu'il était vieux, et Valville, en conformité de gestes, prenait insensiblement la même attitude et se baissait beaucoup aussi parce qu'il était jeune, car il ne connaissait rien à mon mal, mais il se connaissait à mon pied et n'en paraissait aussi content que je l'avais espéré. Pour moi, je ne disais mot et ne donnais aucun signe des observations clandestines que je faisais sur lui. Il n'aurait pas été modeste de paraître soupçonner l'attrait qu'il attirait. Et d'ailleurs, j'aurais tout gâté si je lui avais laissé apercevoir que je comprenais ses petites façons. Cela m'aurait obligé moi-même d'en faire davantage, et peut-être aurait-il rougi des siennes. Car le cœur est bizarre. Il y a des moments où il est confus et choqué d'être pris sur le fait, et quand il se cache, cela l'humilie. Et ce que je dis là, je le sentais par instinct. J'agissais donc en conséquence, de sorte qu'on pouvait bien croire que la présence de Valville m'embarrassait un peu, mais simplement à cause qu'il me voyait, et non pas à cause qu'il aimait à me voir. « Dans quel endroit sentez-vous du mal ?» me disait le chirurgien en me tâtant. « Est-ce là ?»« Oui, lui répondis-je, en cet endroit même. »« Moi aussi est-il un peu enflé ?» ajoutait Valville en y mettant le doigt d'un air de bonne foi. « Allons, ce n'est rien que cela, » dit le chirurgien. « Il n'y a qu'à ne pas marcher aujourd'hui, à l'âge trempé dans de l'eau de vie, et un peu de repos vous guériront. » Aussitôt le linge fut apporté avec le reste, la compresse fut mise, on me chaussa, le chirurgien sortit, et je restai seul avec Valville, à l'exception de quelques domestiques qui allaient et venaient. Je me doutais bien que je serais là quelque temps, et qu'il voudrait me retenir à dîner, mais je ne devais pas paraître m'en douter. Après toutes les obligations que je vous ai, lui dis-je, oserais-je encore vous prier, monsieur, de m'envoyer chercher une chaise ou quelque autre voiture qui me mène chez moi ? Oh non, mademoiselle, me répondit-il, vous n'irez pas si tôt chez vous. On vous y reconduira que dans quelques heures. Votre chute est toute récente, on vous a recommandé de vous tenir en repos et vous dînerez ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer dire où vous êtes, afin qu'on ne soit point en peine de vous. Mais il le fallait effectivement, car mon absence allait alarmer Madame Dutour. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Valville aurait pensé de moi Si j'avais été ma maîtresse, au point de n'avoir à rendre compte à personne de ce que j'étais devenu. Tant d'indépendance n'aurait pas eu bonne grâce. Il n'était pas convenable d'être hors de toute tutelle à mon âge, surtout avec la figure que j'avais. Car il n'y a pas trop loin d'être si aimable à n'être plus digne d'aimer, d'être aimé. Voilà l'inconvénient qu'il y a d'avoir un joli visage. C'est qu'il nous donne l'air d'avoir tout quand nous sommes un peu soupçonnés, et qu'en mille occasions, il conclut contre nous. Mais il conclura pourtant ce qu'il voudra. Cela ne nous dégoûtera pas d'en avoir un. En un mot, on plaît avec un joli visage. On inspire ou de l'amour ou des désirs. Est-ce de l'amour? Fût-on de l'humeur la plus austère, il est le bienvenu. Le plaisir d'être aimé trouve toujours sa place, ou dans notre cœur ou dans notre vanité. Ne fait-on que nous désirer, au fond, il n'y a encore rien de perdu. Il est vrai que la vertu s'en scandalise, mais la vertueuse n'est pas fâchée du scandale. Revenons, vous êtes accoutumé à mes écarts. Je vous disais donc que mon indépendance ne m'aurait pas été avantageuse, et Valville assurément ne m'envisageait pas sous cette idée-là. Ses égards, ou plutôt ses respects, en faisaient foi. Il y a des attentions tendres et même timides de certains honneurs qui ne sont dus qu'à l'innocence et qu'à la pudeur. Et Valville, qui me les prodiguait tous, aurait pu craindre de s'être mépris et d'avoir été la dupe de mes grâces. Je lui aurais du moins ôté la douceur de m'estimer en pleine sûreté de confiance. Et quelle chute n'était-ce pas faire là dans son esprit? Eh bien, le croiriez-vous pourtant, malgré tout ce que je risquais là-dessus, en ne donnant de mes nouvelles à personne, j'hésitais sur le parti que je prendrais. Et savez-vous pourquoi? C'est que je n'avais que l'adresse d'une lingère à donner. Je ne pouvais envoyer que chez Madame Dutour. Et Madame Dutour choquait mon amour-propre. Je rougissais d'elle et de sa boutique. Je trouvais que cette boutique figurait si mal avec une aventure comme la mienne, que c'était quelque chose de si décourageant pour un homme de condition comme Valville, que je voyais entouré de valets, quelque chose de si mal assorti aux grâces qu'il mettait dans ses façons. J'avais l'air moi-même si mignon, si distingué. Il y avait si loin de ma physionomie à mon petit état. Comment avoir le courage de dire: Allez-vous-en à belle enseigne chez Madame Dutour, où je loge. Ah, l'humiliant discours passe pour n'être pas né de parents riches, pour n'avoir que de la naissance sans fortune. L'orgueil tout nu qu'il est par là se sauve encore. Cela ne lui ôte que son faste et ses commodités, et non pas le droit qu'il a aux honneurs de ce monde. Mais un si grand étalage de politesse et d'égards n'était pas dû à une petite fille de boutique. Elle était bien hardie de l'avoir souffert, de n'y avoir pas mis ordre par sa confusion. Et c'était là le retour de réflexion que je craignais dans Valville. Quoi, ce n'est que cela, me semblait-il lui entendre dire à lui-même. Et l'ironie de ce petit soliloque-là me révélait tant de sa part que, tout bien pesé, j'aimais mieux lui paraître équivoque que ridicule, et le laisser douter de mes mœurs que de le faire rire de tous ses respects. Ainsi, je conclus que je n'enverrai chez personne et que je dirai que cela n'était pas nécessaire. C'était bien mal conclure, j'en conviens, et je le sentais. Mais ne savez-vous pas que notre âme est encore plus superbe que vertueuse, plus glorieuse qu'honnête, et par conséquent plus délicate sur les intérêts de sa vanité que sur ceux de son véritable honneur? Attendez pourtant, ne vous alarmez pas. Ce parti que j'avais pris, je ne le suivis point. Car dans l'agitation qu'il me causait à moi-même, il me vint subitement une autre pensée. Je trouvai un expédient dont ma misérable vanité fut contente, parce qu'il ne prenait rien sur elle, et qu'il n'affligeait que mon cœur. Mais qu'importe que notre cœur souffre, pourvu que notre vanité soit servie. Ne se passe-t-on pas de tout, et de repos, et de plaisir, et d'honneur même, et quelquefois de la vie, pour avoir la paix avec elle? Or, cet expédient dont je vous parle, ce fut de vouloir absolument m'en retourner. Quoi, quitter sitôt Valville, me direz-vous? Oui, j'eus le courage de m'y résoudre, de m'attacher à une situation que je voyais remplie de 1000 instants délicieux si je la prolongeais. Valville m'aimait. Il ne me l'avait pas encore dit, et il aurait eu le temps de me le dire. Je l'aimais, il l'ignorait. Du moins, je le croyais, je n'aurais pas manqué de le lui apprendre. Il aurait donc eu le plaisir de me voir sensible, et moi, celui de montrer que je l'étais, et tous deux, celui de l'être ensemble. Ah, que de douceur contenue dans ce que je vous dis là, madame. L'amour peut en avoir de plus folle, peut-être n'en a-t-il point de plus touchante, ni qui aille si droit et si nettement au cœur, ni dont ce cœur jouisse avec moi de distraction, avec tant de connaissances et de lumière, ni qu'il partage moins avec le trouble des sens. Il les voit, il les compte, il en démêle distinctement tout le charme, et cependant je les sacrifiais. Au reste, tout ce qui me vint alors dans l'esprit là-dessus, quoique long à dire, n'est qu'un instant à être pensé. Ne vous inquiétez point, mademoiselle, me dit Valville. Donnez votre adresse, on partira sur le champ. Et c'était en me prenant la main qu'il me parlait ainsi, d'un air tendre et pressant. Bien, je ne comprends pas comment j'y résistais. Faites-y attention, ajouta-t-il en insistant. Vous n'êtes point en état de vous en aller si tôt. Il est tard, dînez ici, vous partirez ensemble ensuite. Pourquoi hésiter? Vous n'avez rien à vous reprocher en restant. On ne saurait y trouver à redire. Votre accident vous y force. Allons, qu'on nous serve. Non, monsieur, lui dis-je, permettez que je me retire. On ne peut être plus sensible à vos honnêtetés que je le suis, mais je ne veux pas en abuser. Je ne demande pas loin d'ici, je me sens beaucoup mieux, et je vous demande en grâce que je m'en aille. Mais, me dit Valville, quel est le motif de votre répugnance là-dessus, dans une conjoncture aussi naturelle, aussi innocente que celle-ci? Je vous assure que je n'en ai point, répondis-je, et j'aurai grand tort, mais il sera plus séant d'être chez moi, puisque je puis m'y rendre avec une voiture. « Et quoi, partir si tôt ?» me dit-il en jetant sur moi le plus doux de tous les regards. « Il le faut bien, » repris-je en baissant les yeux d'un air triste, ce qui valait bien le regarder moi-même. Et comme les cœurs s'entendent, apparemment qu'il sentit ce qui se passait dans le mien. Car il reprit ma main, qu'il baisa avec une naïveté de passion, si vive et si rapide, qu'en me disant 1000 fois « Je vous aime !» Il me l'aurait dit, certes intelligemment plus qu'il le fit alors. Il n'y avait plus moyen de s'y méprendre. Voilà qui était fini. C'était un amant que je voyais. Il se montrait à visage découvert, et je ne pouvais, avec mes petites dissimulations, parer l'évidence de son amour. Il ne restait plus qu'à savoir ce que j'en pensais, et je crois qu'il dut être content de moi. Je demeurais étourdie, muette et confuse, ce qui était signe que j'étais charmée. Car avec un homme qui vous est indifférent ou qui nous déplaît, on en est quitte à meilleur marché. Il ne nous met pas dans ce désordre-là. On voit bien ce qu'on fait avec lui. Et c'est ordinairement parce qu'on aime qu'on est troublé en pareil cas. Et je l'étais tant que la main me tremblait dans celle de Valville, que je ne faisais aucun effort pour la retirer, et que je la lui laissais par je ne sais quel attrait qui me donnait une inaction tendre et timide. À la fin, pourtant, je prononçai quelques mots qui ne mettaient ordre à rien, de ces mots qui diminuent la confusion qu'on a de se taire, qui tiennent la place de quelque chose qu'on ne dit pas et qu'on devrait dire. Eh bien, monsieur, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Voilà tout ce que je pus tirer de moi. Encore y mêlai-je un soupir qui en ôtait le peu de force que j'y avais peut-être mis. Je me retrouvai pourtant, la présence d'esprit me revint, et la vapeur de ces mouvements qui me tenaient comme enchanté se dissipa. Je sentis qu'il n'était pas décent de mettre tant de faiblesse dans cette situation-là, ni d'avoir l'âme si entreprise, et je tâchais de corriger cela par une action de courage. Vous n'y songez pas. Finissez donc, monsieur, dis-je à Valville en retirant ma main avec assez de force et d'un ton qui marquait encore que je revenais de loin, supposé qu'il fût lui-même en état d'y voir si clair, car il avait eu des mouvements aussi bien que moi. Mais je crois qu'il vit tout. Il n'était pas si neuf en amour que je l'étais, et dans ces moments-là, jamais la tête ne tourne à ceux qui ont un peu d'expérience par devers eux. Vous les remuez, mais vous ne les étourdissez point. Ils conservent toujours le jugement. Il n'y a que les novices qui le perdent. Et puis, dans quel danger n'est-on pas quand on tombe dans certaines mains, quand on a pour tout guide qu'un amant qui vous aime trop mal pour vous mener bien? Pour moi, je ne courais alors aucun risque avec Valville. J'avoue que je fus troublé, mais à un degré qui étonna ma raison et qui ne l'ôta pas. Et cela dura si peu qu'on aurait pu en abuser, du moins je m'imagine, car au fond, tous ces événements de raison ne valent rien non plus. On n'y est point en sûreté. Il s'y passe toujours un intervalle de temps où l'on a besoin d'être traité doucement. Le respect de celui avec qui vous êtes vous fait grand bien. Quant à Valville, je n'eus rien à lui reprocher là-dessus. Aussi lui avais-je inspiré des sentiments. Il n'était pas amoureux, il était tendre, façon d'être épris qui, au commencement d'une passion, rend le cœur honnête, qui lui donne des mœurs et l'attache au plaisir délicat d'aimer et de respecter timidement ce qu'il aime. Voilà de quoi d'abord s'occupe un cœur tendre, à parer l'objet de son amour de toute la dignité imaginable, et il n'est pas dupe. Il y a plus de charme à ce que là qu'on pense. Ils y perdraient à ne pas s'y tenir. Et vous, madame, vous gagneriez s'il n'était pas si babillarde. Finissez donc, me direz-vous volontiers. Bon, et c'est ce que je disais à Valville, avec un sérieux encore altéré d'émotion. En vérité, monsieur, vous me surprenez, ajoutai-je. Vous avez bien oui, vous-même que j'avais raison de vouloir m'en aller, et qu'il faut que je parte, vous le voyez bien. Oui, mademoiselle, vous allez partir, me répondit-il tristement, et je vais donner mes ordres pour cela, puisque vous ne pouvez souffrir ici, et qu'apparemment je vous y déplais moi-même, à cause du mouvement qui vient de m'échapper, car il est vrai que je vous aime et que j'emploierai à vous le dire tous les moments que nous passerions ensemble et tout le temps de ma vie si je ne vous quittais pas. Et quand ce discours qu'il me tenait aurait duré tout le temps de la mienne, il me semble qu'il ne m'aurait pas ennuyé non plus, tant la joie dont il me pénétrait était douce, flatteuse et pourtant embarrassante, car je sentais qu'elle me gagnait. Et je ne voulais pas que Valville la vît, et je ne savais quel air prendre pour la mettre à couvert de ses yeux. D'ailleurs, ce qu'il m'avait dit demandait une réponse. Ce n'était pas ma joie à le faire. Je n'avais que ma joie dans l'esprit, de sorte que je me taisais, les yeux baissés. Vous ne répondez rien, me dit Valville. Partirez-vous sans me dire un mot? Mon action m'a-t-elle rendu si désagréable? Vous a-t-elle offensé sans retour? Et remarquez que pendant ce discours, il avançait sa main pour avoir la mienne, que je le lui laissais prendre, et qu'il baisait encore en me demandant pardon de l'avoir baisé. Et ce qui est de plaisant, c'est que je trouvais la réparation fort bonne, et que je la recevais de la meilleure foi du monde, sans m'apercevoir qu'elle n'était qu'une répétition de la faute, et je crois même que nous nous en aperçûmes ni l'un ni l'autre. Et entre deux personnes qui s'aiment, ce sont là de ces simplicités de sentiments que peut-être l'esprit remarquerait bien un peu s'il voulait, mais qui laissent bonnement passer au profit du cœur. « Ne me direz-vous rien ?» me disait donc Valville. « Aurais-je le chagrin de croire que vous me haïssez ?» Un petit soupir naïf précéda ma réponse, ou plutôt la commença. « Non, monsieur, je ne vous hais pas, lui dis-je. Vous n'avez pas donné lieu de vous haïr, il s'en faut bien. « Et que pensez-vous donc de moi ?» reprit-il avec feu. « Je vous ai dit que je vous aime. Comment regardez-vous mon amour ? Êtes-vous fâché que je vous en parle ?»« Mais que voulez-vous que je réponde à cette question ?» lui dis-je. « Je ne sais pas ce que c'est que l'amour, monsieur. » Je pense seulement que vous êtes un fort honnête homme, que je vous ai beaucoup d'obligations et que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi dans cette occasion-ci. « Vous ne l'oublierez jamais !» s'écria-t-il. « Et comment saurais-je que vous voudrez bien vous souvenir de moi, si j'ai le malheur de ne plus vous voir, mademoiselle ? Ne m'exposez point à vous perdre pour toujours. Et s'il est vrai que vous n'ayez point d'aversion pour moi, ne m'ôtez pas les moyens de vous parler quelquefois, et d'essayer, si ma tendresse ne pourra vous toucher un jour. Je vous ai vu aujourd'hui que par un coup de hasard. Où vous retrouverai-je si vous me laissez ignorer qui vous êtes ? Je vous chercherai inutilement. J'en conviens, lui dis-je avec une franchise qui alla plus vite que ma pensée, et qui semblait nous plaindre tous deux. Eh bien, mademoiselle, ajouta-t-il, en approchant encore sa bouche de ma main, car nous ne prenions plus garde à cette minute-là, elle nous était devenue familière, et voilà comment tout passe en amour. Eh bien, nommez-moi de grâce les personnes à qui vous appartenez, instruisez-moi de ce qu'il faut faire pour être connu d'elles, donnez-moi cette consolation avant que de partir. À peine achevait-il de parler qu'un laquais entra. Qu'on mette les chevaux au carrosse pour reconduire mademoiselle, lui dit Valville en se retournant de son côté. Cet ordre, que je n'avais point prévu, me fit frémir. Il rompait toutes mes mesures et jetait ma vanité dans toutes ses angoisses. Ce n'était point le carrosse de Valville qu'il me fallait. La petite lingère n'échappait point par là à l'affront d'être connue. J'avais compris comment verrais chercher une voiture, mais je comptais m'y mettre toute seule, en être quitte pour dire « Mettez-moi dans telle rue, et à l'abri de toute confusion, regagner ainsi cette fâcheuse boutique qui m'avait coûté tant de peine d'esprit et dont je ne pouvais plus faire un secret si je m'en retournais dans l'équipage de Valville, car il n'aurait pas oublié de demander à ses gens « Où l'avez-vous mené ?» et il n'aurait pas manqué de lui dire « à une boutique. Encore, n'eût-ce été là que demi-mal, puisque je n'aurais pas été présente au rapport et que je n'en aurais rougi que de loin. Mais vous allez voir que la politesse de Valville me destinait à une honte bien plus complète. J'imagine une chose, mademoiselle, me dit-il tout de suite quand le laquais fut sorti, c'est de vous reconduire moi-même avec la femme que vous avez vue paraître. « Qu'en dites-vous, mademoiselle ? Il me semble que c'est une attention nécessaire de ma part, après ce qui vous est arrivé. Je crois même qu'il y aurait de l'impolitesse à m'en dispenser. C'est une réflexion que je fais, qui me vient fort à propos. Et moi, je la trouvais tuante. « Ah, monsieur, m'écriai-je, que me proposez-vous là ? Moi, m'en retourner dans votre carrosse, au logis ?» Et arriver avec vous, avec un homme de votre âge ? Ah non, monsieur, je n'aurai pas cette imprudence-là. Le ciel m'en préserve. Vous songez pas à ce qu'on dirait, Mais tout est plein de médisants. Et si on ne va pas me chercher une voiture, oh, j'aime encore mieux m'en aller à pied chez moi et m'y traîner comme je pourrais que d'accepter vos offres. Ce discours ne souffrait point de réplique. Aussi m'en parut-il outré. Alors, mademoiselle, s'écria-t-elle à son tour avec douleur en se levant d'auprès de moi, je vous entends. Vous ne voulez plus que je vous revoie, ni que je sache où vous reprendre. Car, de m'alléguer la crainte que vous avez, dites-vous, de ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas d'apparence qu'elle soit le motif de vos refus. Vous vous blessez en tombant, vous êtes à ma porte, je m'y trouve. Vous avez besoin de secours, 1 000 gens sont témoins de votre accident. Vous ne sauriez vous tenir. Je vous fais porter chez moi, et de là, je vous ramène chez vous. Il n'y a rien de si simple, vous le sentez bien. Mais rien en même temps qui me mit plus malheureux à la porte d'être connu de vos parents. Et je vois bien que c'est à quoi vous ne voulez pas que je parvienne. Vous avez vos raisons, sans doute. Vous vous déplaisez, vous êtes prévenu. Et là-dessus, sans me donner le temps de lui répondre, outré du silence morne que j'avais gardé jusque-là, et dans l'amertume de son chagrin, ayant l'air content d'être privé de ce qu'il était au désespoir de perdre, il part, s'avance à la porte de la salle et appelle impétueusement un laquais qui accourt. Qu'on aille chercher une chaise, lui dit-il, et si on n'en trouve pas, qu'on amène un carrosse, mademoiselle ne veut pas du mien. Et puis, revenant à moi, soyez en repos, ajouta-t-il. Vous allez avoir ce que vous souhaitez, mademoiselle, il n'y a plus rien à craindre, et vous et vos parents me serez éternellement inconnus, à moins que vous ne me disiez votre nom, et je ne pense pas que vous en ayez envie. À cela, nulle réponse encore de ma part. Oh, je n'étais plus en état de parler. En revanche, devinez ce que je faisais, madame. Excédé de peine, de soupirs, de réflexions, je pleurais, la tête baissée. Vous pleuriez, oui, j'avais les yeux remplis de larmes. Vous en êtes surprise, mais mettez-vous bien au fait de ma situation, et vous verrez dans quel épuisement de courage je devais tomber. Que n'avais-je pas souffert depuis une demi-heure? Comptons mes détresses. Une vanité inexorable qui ne voulait point de Madame Dutour, qui par conséquent que je fusse lingère, une pudeur gémissante de la figure d'aventurière que j'allais faire si je ne m'en tenais pas à être fille de boutique, un amour désespéré, à quoi que je me déterminasse là-dessus. Car une fille de mon état, me disais-je, ne pouvait pas conserver la tendresse de Valville, ni une fille suspecte mériter qu'il l'aimât. Alors à quoi donc me résoudre? À m'en aller sur le champ? Aucune affliction pour mon cœur qui se trouvait si bien de l'entretien de Valville. Et voyez que de différentes mortifications il avait fallu sentir peser, essayer sur mon âme pour en comparer les douleurs et savoir à laquelle je donnerais la préférence. Ajoutez à cela qu'il n'y a rien de consolant dans de pareilles peines. Parce que c'est la vanité qui vous les cause, et que de soi-même on est incapable d'une détermination. En effet, à quoi m'avait-il servi d'opter de m'être enfin fixé à la douleur de quitter Valville? M'en était-il moins difficile de lui rester inconnu, comme c'était mon dessein? Non, vraiment, car il m'offrait son carrosse, il voulait me reconduire. Ensuite, il se retranchait à savoir mon nom. Qu'il n'était pas naturel de lui cacher, mais que je ne pouvais pas lui dire puisque je ne le savais pas moi-même, à moins que je ne prisse celui de Marianne. Et prendre ce nom-là, c'était presque déclarer Madame Dutour et sa boutique ou faire soupçonner quelque chose d'approchant. À quoi donc en étais-je réduite? À quitter brusquement Valville sans aucun ménagement de politesse et de reconnaissance? À me séparer de lui comme d'un homme avec qui je voulais rompre, lui qui m'aimait, lui que je regrettais, lui qui m'apprenait que j'avais un cœur, car on ne le sent que du jour où l'on aime, et juger combien ce cœur est remué de la première leçon d'amour qu'il reçoit. Enfin, lui, que je sacrifiais à une vanité haïssable, que je condamnais intérieurement moi-même, qui me paraissait ridicule, et que malgré tout, le tourment qu'elle me causait ne me laissait pas seulement la consolation de me trouver à plaindre. En vérité, madame, avec une tête de 15 ou 16 ans, avais-je tort de succomber, de perdre tout courage et d'être abattu jusqu'aux larmes? Je pleurais donc, et il n'y avait peut-être pas de meilleur expédient pour me tirer d'affaire que de pleurer et de laisser tout là. Notre âme sait bien ce qu'elle fait, ou du moins son instinct le sait bien pour elle. Vous croyez que mon découragement est malentendu, qui ne peut tourner qu'à ma confusion, mais c'est le contraire. Il va remédier à tout, car premièrement, il me soulagea, il me mit à mon aise, il affaiblit ma vanité, il me défit de cet orgueilleux effroi que j'avais d'être connu de Valville. Voilà déjà bien du repos pour moi, et voici d'autres avantages. C'est que cet abattement et ces pleurs me donnèrent aux yeux de ce jeune homme je ne sais quel air de dignité romanesque qu'il lui en imposa, qui corrigea d'avance la médiocrité de mon état, qui disposa Valville à l'apprendre sans en être scandalisé. Car vous sentez bien que tout ceci ne saurait demeurer sans quelque petit éclaircissement. Mais n'en soyons point en peine, et laissez faire aux pleurs que je répands. Ils viennent d'ennoblir Marianne dans l'imagination de son amant. Ils font foi d'une fierté de cœur qui empêchera bien qu'il ne la dédaigne. Et dans le fond, observons une chose. Être jeune et belle, ignorer sa naissance et ne l'ignorer que par un coup de malheur, rougir et soupirer en illustre infortuné de l'humiliation où cela vous laisse. Si j'avais affaire à l'amour, lui qui est tendre et galant, qui se plaît à honorer ce qu'il aime, voilà, pour lui paraître charmante et respectable, dans quelle situation, avec quel amas de circonstances, je voudrais m'offrir à lui. Il y a de certaines infortunes qui embellissent la beauté même, qui lui prêtent de la majesté. Vous allez alors, avec vos grâces, celles que votre histoire, faite comme un roman, vous donne encore. Et ne vous embarrassez pas d'ignorer ce que vous êtes né. Laissez travailler les chimères de l'amour là-dessus. Elles sauront bien vous faire un rang distingué et tirer bon parti des ténèbres qui cacheront votre naissance. Oh, si une femme pouvait être prise pour une divinité, mais ce serait en pareil cas que son amant l'en croirait une. À la vérité, il ne faut pas s'attendre que cela dure. Ce sont là de ces grâces et de ces dignités d'emprunt qui s'en retournent avec les amoureuses folies qui vous emparent. Et moi, je retourne toujours en réflexion et je vous avertis que je ne me les reprocherai plus. Vous voyez bien que je n'y gagne rien et que je suis incorrigible. Ainsi tâchons toutes les deux de ne plus y prendre garde.